nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Étudier la répartition des maladies dans les populations, établir les facteurs qui peuvent influencer cette répartition, c'est le rôle des études épidémiologiques. Les études épidémiologiques ont eu par exemple un rôle important dans l'impact entre la consommation de tabac et le cancer du poumon ou sur les effets de l'amiante sur notre santé. Mais aujourd'hui, l'épidémiologie semble avoir changé de visage. Son impact est tellement fort qu'elle est de plus en plus utilisée sans réelle visée scientifique, mais plus pour rassurer les populations. À l'inverse, des études épidémiologiques, dont la crédibilité est très relative, peuvent annoncer des effets négatifs très élevés entre un facteur et une population concernée. Ce fut le cas de l'affaire du vaccin de l'hépatite B, dont une étude démontrait le risque important de développer une sclérose en plaques, ou alors la forte utilisation du téléphone portable qui pouvait, à terme, provoquer des tumeurs au cerveau. Tout ceci avec un relais médiatique important, mais dont les études ont été peu de temps après remises en cause par des études épidémiologiques plus poussées. Et au milieu de ces études, dont on peut s'interroger sur les intentions, se trouvent les études épidémiologiques fiables, très documentées, menées sur un long terme. Pour faire simple, comment distinguer les bonnes des mauvaises études épidémiologiques et ont-elles encore un sens si on peut leur faire dire n'importe quoi ? Pour répondre à nos questions, le professeur Arango est avec nous. Monsieur, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Nos auditeurs commencent à bien vous connaître. Vous êtes à la fois ingénieur et médecin, professeur de biophysique à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, et puis parallèlement directeur du service de médecine nucléaire du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et du Haut Conseil de la Santé publique depuis 2008. André Arango, peut-être faut-il commencer par préciser qu'il existe plusieurs types d'études épidémiologiques.
Alors je voudrais tout d'abord préciser que je ne suis pas épidémiologiste et je viens parler non pas parce que je pense que l'épidémiologie est quelque chose de trop sérieux pour être confié aux épidémiologistes, mais simplement parce que les études épidémiologiques ont maintenant un rôle essentiel et justifié dans les prises de décision en santé publique et que c'est justement pour renforcer la crédibilité, l'impact de l'épidémiologie que je mène ces investigations et un certain nombre de publications sur le sujet. Alors, il existe effectivement deux types d'études essentielles d'études épidémiologiques destinées à mettre en évidence un risque sur une population particulière. Il y a des études que l'on appelle cas témoins, dans lesquelles on part de personnes qui ont une maladie déterminée, la maladie que l'on étudie, et pour lesquelles on va chercher des témoins. Qu'est-ce que c'est que les témoins ? C'est des gens qui n'ont pas cette maladie, mais qui, par ailleurs, sont assez semblables quant à l'âge, quant au sexe, quant au statut socio-économique, etc. Et ensuite, et c'est là que le bât va souvent blesser, on cherche chez les cas et chez les témoins à quantifier l'exposition à un facteur de risque déterminé. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez utilisé des pesticides pour votre jardin, ou bien est-ce que vous téléphonez longtemps, ou bien etc., etc. Et on compare cette exposition chez les cas et chez les témoins. Quand l'exposition est plus élevée chez les cas que chez les témoins, on en déduit qu'il y a un risque et on peut évaluer dans quelle fourchette ce risque est vraisemblablement compris. Quand en revanche il y a une exposition moins forte chez les cas que chez les témoins, on peut en déduire que le risque en réalité était protecteur. Alors on voit bien que cette reconstitution rétrospective de l'exposition, forcément à rechercher dans le passé, peut reposer soit sur des documents objectifs, par exemple si on s'intéresse au risque de la radiologie, on peut rechercher des clichés radiologiques, etc., à condition de les retrouver tous, ce qui n'est pas forcément évident, mais de temps en temps, l'étude, et même souvent, repose sur un interrogatoire. Or, dans cet interrogatoire, il y a deux problèmes. Il y a premièrement le problème de la mémoire tout court. Est-ce qu'on se rappelle vraiment des petites choses datant d'il y a 20 ans. Et puis, il y a deuxièmement ce qu'on appelle des biais d'anamnèse, des biais de mémorisation. C'est-à-dire que psychologiquement, les personnes qui ont la maladie XY vont avoir davantage tendance à se rappeler les facteurs qui sont suspectés comme ayant pu la provoquer.
Vous voulez dire que naturellement, on tire vers le bas.
Voilà, on se rappelle mieux qu'on a eu, par exemple, une radio à telle période ou qu'on a téléphoné pendant longtemps, etc. Deuxièmement, il y a des études que l'on appelle de cohorte. Alors, ces études de cohorte consistent à prendre une population bien portante, à enregistrer sur elle un certain nombre de paramètres et ensuite à la suivre dans l'avenir en attendant que les maladies se déclarent. Alors là, l'exposition est beaucoup plus facile à cerner puisqu'on peut l'enregistrer pratiquement au jour le jour. Et donc, il suffit de revoir les gens régulièrement et quand on les interroge sur des choses qui datent de quelques mois, on peut avoir une quantification fiable de l'exposition. Mais on voit bien que, inversement, ces études vont avoir des inconvénients lourds, à savoir qu'il faut souvent attendre très longtemps avant d'avoir les résultats de l'étude. Il faut attendre que suffisamment de maladies se déclarent. Et pour des chercheurs, ce n'est pas forcément très confortable de savoir qu'ils ne pourront publier que dans 10 ou 15 ans. Et deuxièmement, quand il s'agit de pathologies très rares, il faut s'adresser à des effectifs très importants, qui peuvent être des effectifs considérables, de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc ces études de cohorte sont à la fois longues, elles sont coûteuses et elles nécessitent une logistique considérable.
Donc on a d'une part les études de cohorte longues et onéreuses, mais avec des résultats fiables. Et puis, de l'autre côté, des études cas témoins, où là, pour le coup, effectivement, ce sont des études beaucoup plus brèves, mais dont les résultats sont faussés par la libre appréciation de ces personnes qui participent à ces études cas témoins.
Les résultats peuvent être faussés, ils ne le sont pas forcément. De temps en temps, on a des données objectives sur les expositions. Et à ce moment-là, le problème de sa reconstitution rétrospective ne se pose pas vraiment. En revanche, très souvent, les données d'interrogatoire sont peu fiables. Je peux prendre un exemple. L'étude Interphone avait été, qui est sur la téléphonie mobile, une étude multinationale, était initialement prévue pour recueillir des données auprès des opérateurs, pour savoir combien de temps les gens téléphonaient, combien de fois par mois, etc., etc. Or, les opérateurs ne disposaient plus de ces données qui étaient trop anciennes, et donc on a fondé l'étude sur un interrogatoire. Or, les auteurs de l'étude eux-mêmes ont montré que ces données d'interrogatoire n'étaient pas fiables, même pour des questions sur des appels datant de 6 mois. Or, ils avaient besoin, pour l'étude elle-même, d'avoir des renseignements sur des appels datant de plusieurs années, voire plus de 10 ans. Et donc, on peut évidemment imaginer la qualité des informations recueillies de cette sorte. Alors qu'on ait des incertitudes sur les expositions, à la limite, ce n'est pas très grave. On fait avec ce qu'on a. Ce qui est grave, c'est que dans les études statistiques, la plupart des auteurs font comme si l'incertitude n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte du fait que les expositions sont mal connues. Et donc, ce faisant, ils sous-estiment considérablement, ou peu ou prou du moins, leurs intervalles de confiance, c'est-à-dire la taille de la zone dans laquelle doit se trouver le vrai facteur de risque.
Mais est-ce que c'est l'interprétation qui est mauvaise de la part des lecteurs, comme par exemple des médias qui vont pouvoir transformer cette information, pas forcément au départ lisible, la transformer à un large public, ou est-ce que ce sont ces chercheurs qui travaillent à ces études épidémiologiques qui vont parfois donner une information qui n'est pas forcément tout à fait la bonne ?
Les chercheurs ne sont pas de mauvaise foi dans la quasi-totalité des cas. Les chercheurs simplement n'utilisent pas des méthodes adéquates, point final. Les raisons elles-mêmes, je ne les connais pas. En ce qui concerne les lecteurs, je pense que le lecteur scientifique ne connaît pas forcément le détail des techniques statistiques épidémiologiques. Le lecteur du grand public, lui, se laisse abuser par des chiffres dont il croit qu'ils sont extrêmement justes. Si vous prenez un exemple tout simple et tout récent du sondage qui donnait un candidat à l'élection présidentielle prochaine en avance sur 2 autres candidats, en réalité, quand on regarde les intervalles de confiance, les intervalles ne sont pas significativement différents. Donc, il n'y a pas ce sondage en lui-même, ne prouvait rien. Cela dit, il a été largement médiatisé, comme on l'a vu.
Alors, pour aller dans votre sens, dans un article que vous avez fait paraître, et là je reprends mes papiers, dans Environnement, Risques et Santé,
publié en juillet-août 2010. Vous citez les travaux de Paolo Boffetta, que nous avons reçu ici à Canal Academy, et qui travaille à l'Institut National du Cancer. Et là, pour le coup, je reprends des chiffres que j'ai pu trouver sur un autre article pour justement parler de cette interprétation des données. Alors, je lis cet article. « Lorsque l'Institut National du Cancer annonce que 13% des cancers du poumon sont dus au radon, 10 à 20% à des expositions professionnelles, et qu'il est admis que près de 90% de ces cancers sont dus au tabagisme, le lecteur non initié est certainement troublé par la forte contribution apparente du radon, mais aussi pour une somme de pourcentage supérieure à 100%. Il serait souhaitable, et j'en ai presque terminé, il serait souhaitable de lui expliquer que la majorité des cancers du poumon causés par le radon sont dus à l'exposition conjointe à radon plus tabac, et que l'abandon du tabac est un moyen de prévention des effets du radon plus efficace que la transformation de l'habitat. » Voilà, pour parler de cette interprétation des chiffres.
Oui, c'est un bon exemple. Le radon, effectivement, agit beaucoup plus comme potentialisateur du tabac que comme facteur cancérigène en lui-même. Et dans les études épidémiologiques, il est très 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 difficile de faire la part du radon quand il est noyé dans le tabagisme, qu'il s'agisse du tabagisme actif ou du tabagisme passif. Et il est vrai que les chiffres peuvent être interprétés de manière erronée. Un autre élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'effet des tests multiples. Un article qui était humoristique, mais qui voulait dénoncer cette tendance, avait enregistré les causes pour lesquelles les gens étaient hospitalisés dans les services d'urgence de New York. Et ils avaient fait des tests pour savoir s'il y avait un lien avec les signes du zodiaque. Donc, ils en déduisaient que les gens natifs du Verseau étaient plus souvent hospitalisés pour état de malasmatique ou que les gens natifs du Lion avaient plus souvent des crises d'épilepsie. Mais en réalité, ça n'avait absolument aucune valeur parce qu'ils avaient fait des dizaines et des dizaines de tests, puisque pour chaque maladie, il y avait 12 tests avec les 12 signes du zodiaque. Donc, il était normal, puisque ce sont des tests qui sont faits avec un seuil de 95%, que 1 sur 20 de cela soit positif. Et donc, il suffisait de le monter en épingle pour qu'on puisse avoir un article fracassant, mais évidemment sans autre portée que celle de mettre en garde contre ce genre de pratique. Il n'est pas rare dans une étude épidémiologique de voir que les gens ont fait des centaines de tests. Et ça arrive très souvent, vous parliez du vaccin contre l'hépatite, quand on ne voit rien dans une étude épidémiologique, souvent les gens font des sous-groupes, c'est-à-dire qu'ils vont dire « bon, on n'a rien vu sur toute la population, mais on va regarder ce qui se passe chez les gens qui ont les yeux bleus » ou chez les gens qui ont les cheveux longs, etc., etc. Donc, de sous-groupe en sous-groupe, on fait d'abord beaucoup de tests, et puis deuxièmement, on réduit la taille des échantillons, et on arrive, bon, pratiquement toujours, à avoir un test positif. Dans le dernier papier sur les liens entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, nous avions calculé que la probabilité d'avoir un résultat positif dans un des sous-groupes, vu la façon dont les gens s'y étaient pris, cette probabilité était supérieure à 95%. Donc il aurait fallu vraiment qu'ils aient pas de chance pour pas avoir au moins un petit résultat positif.
Alors attention au piège des sous-groupes. Et puis également dans l'article que j'ai cité il y a quelques instants, article que vous avez rédigé en juillet-août 2010, vous parlez attention aux faux positifs de l'épidémiologie. Alors qu'est-ce que sont les faux positifs ?
Alors les faux positifs existent et les faux négatifs existent aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que les faux positifs ? C'est une étude dont on vous dit qu'elle montre un risque, alors qu'en réalité, elle n'en montre pas. Alors, quand est-ce que cela peut se produire ? Eh bien, c'est quand les intervalles de confiance, par exemple, sont sous-estimés, ce dont on parlait tout à l'heure. Quand vous calculez un risque relatif, c'est un facteur multiplicatif par lequel l'exposition à laquelle vous êtes soumis multiplie le risque de base. C'est-à-dire, vous avez un certain risque d'avoir un cancer du poumon, par exemple, et bien le fait de fumer un paquet par jour pendant 10 ans va le multiplier à peu près par 15. Bon, donc le risque relatif est de 15. Mais ce risque relatif, une enquête épidémiologique va vous le donner dans une certaine fourchette. C'est-à-dire, vous direz, il y a 95% chance sur 100 pour que le risque relatif soit compris entre telle et telle valeur. Si cet intervalle est au-dessus de 1, vous direz qu'il y a vraiment un risque, que votre étude est positive. S'il est au-dessous de 1, l'intervalle lui-même, vous direz que c'est un effet protecteur. Mais si 1 est dans l'intervalle de confiance, vous direz que votre étude est négative. Alors on comprend bien que si vous avez un intervalle de confiance qui est juste au-dessus de 1, Mais si vous avez sous-estimé sa taille, eh bien, en réalité, il y a une partie qui passe au-dessous de 20. Donc, 1 fait partie de l'intervalle de confiance. Donc, vous avez en quelque sorte vendu pour positive une étude qui serait négative si vous aviez correctement fait le travail statistique. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Mais alors, ce message que l'on entend bien, il est aussi bien valable pour nous, auditeurs, simples lecteurs de ces données, mais également valable pour les chercheurs eux-mêmes.
Oui, il est valable pour les chercheurs eux-mêmes et je pense que l'épidémiologie est devant un choix, si vous voulez. Soit l'épidémiologie fait très attention à la rigueur de ses méthodes, elle trouvera davantage d'études négatives, c'est vrai, mais si c'est comme ça, bon, bah, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça veut dire simplement qu'il est au-dessous d'un certain seuil. Soit l'épidémiologie dérive vers des résultats qui sont pas fiables, auquel cas on va assister à ce que l'on voit actuellement, c'est-à-dire une multiplication d'études qui se contredisent les unes les autres, l'une qui dit oui il y a, non il n'y a pas, etc. Et l'épidémiologie risque de devenir une fausse science en définitive. Moi, je pense qu'il y a deux choses que l'épidémiologie doit faire de façon impérative pour gagner la place, encore une fois, totalement justifiée. Et sa place comme, disons, base scientifique des décisions de santé publique. Il faut premièrement que ça devienne une science réfutable. Actuellement, quand vous avez l'impression qu'un calcul statistique n'a pas été fait comme il fallait, vous ne pouvez pas le refaire parce que les données ne sont pas disponibles. Donc il faudrait que les données soient publiées après un délai raisonnable. Il ne s'agit pas de priver les gens de leur publication, simplement de pouvoir faire des calculs qu'eux-mêmes n'ont pas su faire.
Mais ce secret des données, il est valable uniquement pour les études épidémiologiques ?
En général, les publications scientifiques vous donnent suffisamment d'éléments pour pouvoir vous-même refaire le travail. Aucun mathématicien ne publie un nouveau théorème sans expliquer comment il l'a démontré, ou aucune méthode de, je sais pas, de chimie ou de biochimie ou d'imagerie ne se dispense de donner suffisamment d'informations pour qu'on puisse vérifier si on trouve le même résultat. C'est d'ailleurs la reproductibilité, la convergence est quelque chose d'extrêmement important pour la science.
Alors pourquoi ce n'est pas appliqué pour les études épidémiologiques ?
Bah parce que souvent, les chercheurs considèrent que les données sont leur propriété, qu'ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour les avoir et que donc, il n'y a pas de raison qu'ils en fassent bénéficier d'autres. Je suppose que c'est ça, parce qu'il n'y a pas tellement de raisons, finalement. Et donc, cette réfutabilité, c'est-à-dire la possibilité, si un résultat est erroné, de prouver en quelque sorte qu'il l'est, c'est vraiment au fondement même de la science. La science ne donne pas des résultats qu'on ne peut pas vérifier, ce n'est pas possible. Et d'autre part, on voit actuellement une tendance, moi qui me paraît assez dangereuse, c'est celle de mélanger en quelque sorte l'épidémiologie dans un double statut qui serait celui d'évaluation du risque, mais dans lequel on tiendrait compte aussi de problèmes de gestion du risque. Et j'entends parler d'introduction des sciences humaines, de l'analyse sociale des contextes, d'épidémiologie citoyenne en quelque sorte. Et là, je mets vraiment en garde, c'est-à-dire que l'épidémiologie doit rester une technique d'évaluation du risque qui a la froideur de la science, c'est triste. Et ensuite, les problèmes de gestion des résultats qu'obtient l'épidémiologie, c'est un autre problème. C'est un problème de nature politique, sociale, de consensus, etc. Et donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Il serait extrêmement dangereux de mélanger les deux.
Les études épidémiologiques donnent des études statistiques sur justement ces risques par rapport aux bénéfices. Est-ce que les études épidémiologiques jouent un rôle dans le seuil que l'on peut apporter entre les risques et les bénéfices ?
Non. Une étude épidémiologique peut évaluer d'un côté les risques. De l'autre côté, une autre étude peut évaluer le bénéfice, ça peut être une étude épidémiologique aussi, hein. Mais ensuite, savoir si l'un justifie l'autre, c'est une décision de nature économique, politique, médicale, une question d'appréciation, et on peut comprendre que des réponses différentes soient apportées à cette question par différentes sensibilités. Après, c'est au corps social, à la légitimité politique de se prononcer sur le fait que le jeu vaut la chandelle.
Alors justement, comment se décide une étude épidémiologique ? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui va commanditer une étude épidémiologique ?
Alors, ça arrive, c'est pas le cas général. En général, une étude épidémiologique est imaginée par des chercheurs et je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire qu'il faut absolument laisser ouverte toute possibilité d'étude de quelques facteurs de risque que ce soit. De temps en temps, des études épidémiologiques sont commanditées par des industriels, par exemple, qui s'interrogent sur les risques de telle ou telle de leurs pratiques. Et là, ça pose la question de l'indépendance qui doit être totale entre les chercheurs et l'entreprise en question. Je peux citer un cas, c'est EDF qui, avec Hydro-Québec et Ontario Hydro, deux compagnies d'électricité canadiennes, a fait une très grande étude sur les risques des champs électromagnétiques de 50 Hz, 60 Hz. Mais le chercheur, qui s'appelle Thériault, qui a fait cette étude, donc, est resté complètement indépendant des trois entreprises. Et il était dit dans le contrat que les entreprises n'auraient connaissance des résultats que quand ils seraient publiés. Et ça a été respecté. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel d'avoir une séparation complète entre celui qui finance et celui qui fait l'étude. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas assez d'études épidémiologiques destinées à vérifier d'autres études. De temps en temps, des études ont montré ou cru montrer des choses. Donc souvent, c'est plutôt le fait d'avoir levé une hypothèse, mais qui n'a pas été confirmée, quoi qu'en disent ou n'en disent pas les auteurs. Et donc, il est important, dans ce cas-là, d'aller plus loin et de commanditer une étude. Alors, il y a un cas dans lequel ça a été fait de façon très positive. Il y a eu énormément d'études sur les pesticides. Et ces études, finalement, qui sont de plusieurs dizaines, ont été financées alors que manifestement, les études successives n'apportaient rien aux précédentes. Et elles avaient toutes les mêmes problèmes, à savoir quelles étaient vraiment les expositions, puisque les pesticides, en plus, c'est très compliqué parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de pesticides utilisés par une même personne. Eh bien, la Mutualité Agricole a commandité une étude qui s'appelle Agrican, qui est une grande étude de cohorte qui a enrôlé plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs et qui va permettre, dans un an, deux ans, trois ans, de répondre à des questions qui sont essentielles pour la santé des agriculteurs et même d'ailleurs de ce que j'appellerais les agriculteurs du dimanche, c'est-à-dire les gens qui mettent des pesticides dans leur jardin.
Et aujourd'hui, est-ce que les études épidémiologiques ont encore la même utilité, c'est-à-dire servir des ambitions de santé publique ?
Oui, et je pense que les études épidémiologiques ont toujours le dernier mot en santé publique et qu'une politique de santé qui ne serait pas fondée sur des résultats d'études épidémiologiques fiables serait une politique arbitraire. Je parle là des risques, hein, bien sûr, je ne parle pas de la création des hôpitaux, etc., etc. Donc je parle vraiment de la gestion des risques. Donc il faut absolument que cette politique soit fondée sur une juste appréciation des risques. Après, qu'on ait telle ou telle sensibilité par rapport aux risques, c'est vraiment une autre question. Et donc, il ne faut surtout pas que l'épidémiologie se dévoie jusqu'à abandonner ce rôle essentiel. Sinon, la santé publique ne sera plus une discipline, disons, fondée sur un terrain solide, mais sera livrée à n'importe quel arbitraire groupe de pression ou autre. Et ça, ce serait extrêmement dommageable pour la santé publique. Encore une fois, l'épidémiologie a un rôle éminent. Et qu'elle soit plus fiable, qu'elle soit plus rigoureuse, c'est l'intérêt des pouvoirs publics, c'est l'intérêt des citoyens, c'est l'intérêt des chercheurs, c'est l'intérêt des épidémiologistes eux-mêmes.
Dernière question, faudrait-il produire moins d'études épidémiologiques pour qu'elles restent crédibles ?
Non, je ne pense pas. Il faudrait simplement, à chaque fois, se poser des questions en amont de l'étude, c'est-à-dire quelle est la crédibilité de l'exposition que je vais recueillir, quelles sont les incertitudes que j'ai sur cette exposition, comment est-ce que je peux la prendre en compte ? Combien de tests est-ce que je vais faire ? Et ça, il faut le dire dès le début. Il ne faut pas vous laisser guider par les premières données pour savoir quels tests vous allez faire, parce que sinon, vous allez tourner en rond, si vous voulez, vous allez trouver des fausses pistes en réalité. Et donc, tout cela doit être étudié de même si on décide de faire 10, 20 ou 50 tests. Au début, ça peut arriver. Eh bien, il y a des techniques statistiques qui vous évitent de tomber dans le piège, justement, des tests multiples parmi lesquels vous en trouverez forcément un positif. Donc, il y a des études, il y a des techniques qui vous évitent de tomber dans ce piège-là. À chacun d'y avoir recours.
Eh bien, merci, professeur Orango, de votre éclairage sur la question des études épidémiologiques. Et je rappelle à nos auditeurs qu'on vous retrouve sur de nombreuses autres émissions de Canal Académie. Merci.